Bonjour à toutes et à tous, 44e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français.
C'est ça.
Alors, pour ce 44e numéro, ouais, je crois que tu nous avais pas trop donné d'indices la dernière fois.
Non, donc, c'était la surprise.
Donc on va partir en territoire inconnu, je ne sais pas.
Terra incognita.
Où est-ce que tu vas nous emmener et peut-être aussi à quelle époque?
Ah, ben ça, c'est ce que nous allons découvrir.
Bon.
Alors cet été, en fait, oui. J'ai été invité par mon ami, le maire de Sainte-Afrique, que je salue, pour faire une visite tout à fait exceptionnelle. En fait, à Sainte-Afrique se trouve la Maison de la Mémoire, qui, comme son nom l'indique, regroupe toute la mémoire du pays saint-africain.
D'accord.
Et en fait, elle renferme quelque chose de tout à fait exceptionnel dans ses réserves. Mmh. Malheureusement, c'est pas visible.
Ouais.
Il s'agit, alors accroche-toi, des uniformes. C'est mon truc,
ouais,
ça.
Ouais, toi, c'est ton truc, là. Ouais.
On va plutôt parler d'un militaire, a priori.
A priori.
Dans la réserve se trouvent les uniformes, les képis,
oui.
Bicorne, et une des deux épées d'honneur,
ouais,
du très célèbre général Édouard de Castelnau.
Très célèbre, écoute, excuse-moi Vincent, mais...
Très célèbre.
Ah bon?
Ouais.
Ah, peut-être sous un autre nom, il avait un pseudo?
Alors, non. Alors, en fait, il a fait énormément de choses pendant la guerre de 14.
Ouais.
Mais... C'est ce qu'on va voir, c'est un peu compliqué.
Oui.
Son histoire a été un peu occultée au niveau national, parce que noble, parce que très catholique.
Ah.
Voilà, ça a fait que, on va en parler, ça, il a loupé le bâton de maréchal.
Ah, bah.
Et voilà, ça, son histoire a été un petit peu occultée, alors qu'on va voir sa carrière. Je vais faire la version courte, comme d'habitude,
parce que sinon
ça va être très très long. Mm-hmm. Franchement... Voilà, un grand monsieur et un grand Aveyronnais.
Bon, alors le général de Castelnau, il est né où et quand?
Alors, Noël, Édouard, Marie, Joseph, vicomte de Currières de Castelnau,
oui,
rien que ça,
oui,
est né donc à Sainte-Afrique le 24 décembre 1851. Nous sommes au niveau de à la fin de la Seconde République, dans la partie qu'on appelle la présidence. Le prince président Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra à peine quelques années après Napoléon III, était donc président de la République.
D'accord.
Il est le troisième de cinq enfants. Son père, Michel de Castelnau, est élu maire de Sainte-Afrique de 1882 à 1884. La famille de Currières...
C'est un petit mandat.
C'est un petit mandat, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait creuser, mais c'est vrai que c'est un petit mandat. La famille de Currières de Castelnau est une très vieille famille de la noblesse du Haut-Rouergue, qui remonte vraiment à la nuit des temps. Désargentée, la famille partage une maison à Sainte-Afrique avec les abbés Barthes, qui sont en fait trois frères et qui sont les oncles de la mère d'Édouard.
D'accord, mais pourquoi les abbés? C'était trois abbés?
Trois abbés. Trois frères.
Trois abbés.
De sa mère,
ouais,
qui étaient tous les trois étaient prêtres, tous les trois étaient abbés.
D'accord, et tout le monde vivait dans la même maison.
Tout le monde vivait dans la même maison.
Allez-y.
Voilà.
Ok.
Ces trois religieux s'occupent de l'éducation d'Édouard et le verraient bien notaire.
Ah, mais j'aurais dit abbé.
Pas forcément,
non,
tu vois.
Non,
pas forcément,
vois,
tu vois.
Ok.
Ça devait mieux gagner, déjà à l'époque. Mais lui se voit officier de marine.
Ah oui.
Mais en fait, il choisit finalement l'infanterie.
Ah bah oui, en partant de l'Aveyron, c'est plus simple, hein, la marine.
Oh, tu sais, il y a une association des anciens marins en Aveyron.
Ah, sur le lac de Parlou?
Non, mais des gens, tu sais, qui partaient au long cours. D'ailleurs, tu sais, une des spécialités aveyronnaises, on l'oublie, le stowfish.
Ah bah oui, c'est vrai.
À base de morue.
Ouais, il est bien séché.
Certains paysans,
oui,
notamment du Nord Aveyron, partaient l'hiver, quand il n'y avait rien à faire au niveau de l'exploitation,
ou moins
à faire, ils partaient sur des bateaux à Terre-Neuve, pêcher la morue et ramener la morue. Donc tu vois, on peut être très très loin de la mer et être un marin.
Tout à fait.
Et pas forcément d'eau douce. Donc il rentre à Saint-Cyr en 1869. Et en sort en 1871, là aussi ça a été très court, mais on va voir pourquoi, avec le grade de sous-lieutenant. Très court parce que le temps presse, nous sommes en pleine guerre franco-prussienne. La guerre de 1870-1871. Édouard combat au sein du 31e régiment d'infanterie, qui fait partie de l'armée de la Loire. Après la guerre, il sert comme lieutenant, puis capitaine dans divers régiments, avant d'intégrer... ce qui n'est pas rien, l'école de guerre, en 1879. Affecté à l'état-major de l'armée de Paris En 1893, il en dirige le premier bureau en 1897. Son avancement, on en a parlé au début, est cependant retardé car certains lui reprochent d'être noble et un fervent catholique. À l'époque, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de querelles. On se rappelle de la guerre, tu sais, pour Notre-Dame de Paris. Pas Notre-Dame de Paris, pardon, pour le Sacré-Cœur.
Sacré-Cœur.
Dont les laïcards voulaient vraiment l'annulation du projet. Mmh. C'était une période assez compliquée. Mmh. Georges Clemenceau, grand laïcard, l'appelait, alors attention, il lui a donné deux surnoms, le Capucin Beauté.
Ah oui, d'accord.
Et le général de la jésuiterie.
Ah oui, d'accord, oui, quand même. Hein.
Oui, quand même. C'est... Ouais, ouais. Et ce qui, à l'époque, à mon avis, n'était pas forcément...
C'était pas un compliment.
Ouais, pas forcément très, très sympathique. Mm. Castelnau est finalement nommé au commandement du 37e régiment d'infanterie. En 1906, il est promu, quand même, général de brigade et commande successivement une brigade à Sedan et à Soissons. Mm-hmm. En 1909, il devient général de division et commande la 13e division, il est sous les ordres du général Joffre, d'accord, qui à l'époque n'était que général. Mm-hmm. En 1911, Castelnau a la charge de concevoir un nouveau plan de mobilisation et de concentration des armées françaises en cas de guerre. En 1911, ouais, la guerre était vraiment à nos portes. Ouais. En 1913, ça va te rappeler quelque chose, il est nommé au Conseil supérieur de la guerre. Mm-hmm. En cas de conflit, il prendra le commandement de la 2e armée française. Et, en 1913, c'est Castelnau qui est à l'origine de la fameuse loi de 1913. Ça te rappelle quelque chose ?
Non, là, je t'avoue. Ah, c'était pas autour du service militaire ?
C'est ça.
Pour le rallonger ?
Ça, c'est ça. Ouais. En fait, cette loi de 1913 fait passer le service militaire de 2 ans à 3 ans,
ouais,
pour que nous puissions avoir plus de monde sous les drapeaux pour rattraper notre retard par rapport au nombre d'Allemands présents sous les drapeaux. Hein. Mmh. Donc tu te souviens, en fait, j'ai parlé de cette loi des 3 ans dans la 10e chronique. C'est loin, hein, maintenant, dans la 10e chronique de Mémoire avéronnaise. C'est cette loi qui a valu la fameuse mutinerie du 122e régiment d'infanterie.
Et oui, ça passait pas bien.
Donc
partout.
À retrouver en podcast
sur le site cfmradio.fr à Mémoire avéronnaise.
Tout à fait. À la déclaration de la guerre, ils rejoignent donc la 2e armée qui est en cours de mobilisation à Nancy.
Ouais.
Donc c'est ce qui est prévu, qui va commander cette 2e armée. Le 15 août 1914, les 5 armées françaises passent à l'offensive contre les Allemands. Castelnau affronte l'armée allemande à Morange, en Moselle. Uh-huh. Il bute, malheureusement, sur des forces considérables avec une très grosse concentration d'artillerie lourde.
Ouais, ouais.
La 2e armée française doit se replier sur Nancy. Heureusement, Castelnau réussit à reformer son armée, qu'il renvoie à l'assaut. Il renverse la situation et inflige une lourde défaite aux Allemands. Il sauve Nancy et évite à l'armée française d'être contournée et pris à revers.
Mmh.
Voilà, c'est en fait c'était le plan des Allemands, hein, de prendre toute l'armée française à revers. C'est ce qu'ils ont fait en 40.
C'est ce qu'ils ont fait en 40.
Ils aiment bien ça, prendre à revers.
taille.
C'est ça. La tenaille, comme disaient les soldats de la 7e compagnie. Au moment où les autres armées françaises remportent la victoire de la Marne, Castelnau, lui, bloque une nouvelle offensive des Allemands sur Nancy. Lors de la bataille que l'on appellera du Grand Couronné, mmh, en septembre 1914.
Mmh.
Cette victoire est très importante pour lui, puisqu'elle lui vaudra le surnom de sauveur de Nancy.
Ah bah oui, quand même, oui, c'est pareil.
Joffre le retire ensuite du front de Lorraine et lui confie le flanc gauche des armées françaises au nord de l'Oise, face à l'aile droite allemande.
Ah oui, oui.
C'est le début de ce que l'on appelle la course à la mer. Tout le monde fonce à la mer pour pouvoir essayer de prendre à revers le camp adverse. Castelnau fonce jusqu'à la côte et se joint au corps expéditionnaire britannique.
Mmh.
Ensemble, ils empêchent les Allemands de contourner nos lignes. Les deux camps se retrouvent bloqués et décident de s'enterrer. C'est vraiment le début, à la fin de l'année 14, de la guerre des tranchées.
Eh oui.
On le voit très bien dans le film, tu sais, Joyeux Noël, où nous sommes en Noël, Noël 14, et c'est vraiment le tout début des tranchées. En juin 1915, Castelnau est placé à la tête du groupe d'armée du centre, avec laquelle il dirige l'offensive de Champagne, mmh, en septembre 1915. En quelques jours, il fait, alors accroche-toi bien, 25 000 prisonniers et prend 125 canons. Mais il se retrouve bloqué par une pluie continue. il peut pas, voilà, il peut pas transformer vraiment cette victoire en victoire éclatante. Mm-hmm. C'est vraiment dommage. En décembre 1915, il est nommé chef d'état-major général des armées françaises, poste qu'il occupe durant toute l'année 1916. Dans cette fonction, il seconde le généralissime Joffre. Il est persuadé que les Allemands vont déclencher une très grande offensive sur Verdun. En fait, il est le seul à penser ça. Il fait renforcer les défenses de la ville et met en alerte le 20e corps d'armée à Bar-le-Duc. Heureusement, parce que il a vu juste, les Allemands lancent leur énorme offensive sur Verdun, qui pour eux, en fait, devait gagner la guerre. Ils pensaient gagner la guerre avec cette grande offensive. Le 21 février 1916. Il nomme le général Philippe Pétain à la défense de Verdun et en novembre 1916, il ordonne une grande offensive qui achève cette longue bataille de Verdun et donne la victoire aux Français. Il est très proche de ses soldats, il se rend fréquemment dans les tranchées, tranchées même de première ligne, vraiment au contact de l'ennemi, et visite aussi régulièrement les postes de secours et les hôpitaux. Castelnau est nommé commandant de groupe d'armée de l'Est. En 1918, il est désigné pour préparer une grande offensive en Lorraine, qui doit là aussi renverser les choses, mais l'armistice du 11 novembre est signé juste avant que cette offensive ne débute. Mmh. Voilà. Ce qui aura épargné aussi la vie beaucoup de soldats. On le sait, les grandes offensives, malheureusement, sont très carnivores en hommes. Hein. Mmh. La Grande Guerre, malheureusement, lui prendra 3 fils. Gérald et Xavier, morts en 1914, et Hugues, tué en 1915.
Eh ben.
Le 22 novembre 1918, il fait une entrée solennelle dans Colmar lors des célébrations de sa libération. Mmh. À cette occasion, la presse du monde entier annonce sa future élévation au grade de maréchal de France.
Mmh.
Mais malheureusement, le gouvernement s'y oppose. Parce que
Il n'est pas dans la ligne.
Il n'est pas dans la lignée
politique
et vraiment trop catholique. Il passe à côté du bâton de maréchal. Pourtant, les Français souhaitent qu'il reçoive le bâton de maréchal, comme Joffre, Foch et Pétain.
Oui.
Lors du grand défilé du 14 juillet 1919 sur les Champs-Élysées, la foule l'acclame en l'appelant maréchal, maréchal, maréchal. Voilà, donc le peuple pourtant est conscient vraiment de ce qu'il a fait. Mmh. On l'a vu, c'est vraiment un héros de la guerre de 14. On peut même dire héros de Verdun, mais tu vois, c'est pas lui qui. Alors les historiens commencent un petit peu à y revenir, surtout depuis le centenaire de la bataille de Verdun.
Oui.
Mais le héros de Verdun, dans l'imagerie d'Épinal, c'est Pétain.
Ouais.
Et donc l'état-major et le gouvernement français a mis Pétain à la place de Castelnau, alors que c'était Castelnau son chef, et il a fait énormément pour Verdun. Quoi. Il entre au Parlement en 1919 comme député de l'Aveyron au sein de la Fédération républicaine, qui est de droite et qui à l'époque était la majorité. Il est élu président de la commission de l'armée. En 1921, le gouvernement d'Aristide Briand l'écarte une nouvelle fois, malheureusement, de la liste des nouveaux maréchaux qui donnent le maréchalat à Fayolle, Branché, Gallieni et Lyautey.
Ah oui.
Voilà, il sera à nouveau écarté.
Il passe encore au travers.
Et il sera jamais maréchal.
Ouais.
C'est vraiment l'oublié du maréchalat de France. Il est battu aux élections de 1924 par le mathématicien saint-africain Émile Borel.
Ah.
Il s'éloigne alors de la vie publique et lance un mouvement catholique qu'il baptise la Fédération nationale catholique.
Uh-huh.
La FNC regroupe, c'est énorme, va regrouper jusqu'à 2 millions d'adhérents et pèse vraiment très très lourd dans la vie politique nationale. Même des fois en faisant pencher la balance dans une période, je l'ai dit, où on est très anticlérical et où on essaye de faire des choses vraiment contre l'Église et contre les catholiques. Cela vaut bien sûr à Castelnau d'être encore plus détesté, on s'en doute, par les radicaux socialistes et les anticléricaux.
Oui.
Il est membre de l'Institut de France, membre fondateur de l'Association d'entraide de la noblesse française.
Uh-huh.
En 1924, il fonde l'hebdomadaire La France catholique, ainsi que la société de secours mutuel La Familiale. Ça, c'est en 1928. Peut-être tu connais. En fait, elle a pour but de venir en aide aux personnes malades et hospitalisées. Mmh. Et en fait, ça doit exister toujours, je pense, j'ai pas vérifié. Cette société deviendra plus tard la Mutuelle Familiale d'Île-de-France.
Ah ouais, d'accord.
Tu connais, ça te dit quelque chose?
Non, franchement, non. Non, je connais pas.
Au début de la guerre d'Espagne, Castelnau proteste énergiquement contre le massacre de milliers de religieux en Espagne. Trop âgé, en 1939, il ne participe pas à la guerre.
Ah bah oui, en tant que militaire.
Bon, tu sais, Pétain, hein, je ne sais pas en quelle année il est né, mais...
Oui, c'était pas loin.
Je crois que c'était pas loin, l'un de l'autre. Il prend ses distances avec le maréchal Pétain au moment de l'avènement du gouvernement de Vichy. Il démissionne de son poste de président de la FNC et se montre très critique vis-à-vis des évêques catholiques de France qu'il trouve trop pétiniste, vraiment trop pétiniste. Il encourage ses deux petits-fils, Urbain de la Croix et Gérald de Castelnau, à rejoindre la France libre.
D'accord.
Gérald est grièvement blessé en octobre 1944 pendant la campagne de France. Et Urbain sera tué et déclaré mort pour la France en 1945 lors du franchissement du Rhin.
Ah ouais, merde, sur la fin.
Tu vois, il a payé un lourd tribut, quand même, la famille a payé un lourd tribut pendant les deux guerres.
Oui.
Malgré son grand âge, il soutient la résistance et cache même des armes dans son château de Lasserre à Montastruc, la Conseillère, en Haute-Garonne. Il meurt dans ce même château le 18 mars 1944. Tu vois, malheureusement, c'est triste, il ne verra pas la libération.
Ah ouais, dis donc. Ouais.
À l'âge de 93 ans.
Et c'est ça, c'est un bel âge.
Ouais, très bel âge. Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, bien que très malade, vient présider la messe d'enterrement qu'il clôture avec cette très très belle phrase: le général de Castelnau était pour nous un appui, une fierté, un drapeau.
Voilà.
C'est beau, hein?
Ouais, oui.
Là, on peut voir vraiment que les deux hommes étaient vraiment très proches. Jules Saliège, ça te dit quelque chose?
Non.
Juste deux mots.
Non plus.
Très très connu, notamment pour avoir écrit. Il se mettait en danger, vraiment. Hein. Heureusement qu'il était très âgé et très malade. C'est pour ça qu'il n'a pas été inquiété. Il est très connu pour avoir écrit, en 1942, une très émouvante lettre apostolique.
Oui.
Tu en as sûrement entendu parler. Tu sais, les Juifs sont nos frères, les Juifs sont nos sœurs.
Oui, tout à fait.
Voilà. En disant que, que c'est au moment des rafles du gouvernement de Vichy et tout ça.
Lois,
la rafle juive et tout ça.
Oui.
Et là, c'est le seul, vraiment, en France, à s'être interposé contre le gouvernement de Vichy, pas l'occupant, puisqu'à ce moment-là, nous étions encore en zone dite libre. C'était la collaboration. Donc, il a failli vraiment être inquiété. Et il doit vraiment, à son état de grand religieux, et puis de son âge et sa maladie, de vraiment d'avoir échappé au pire. Le général de Castelnau a reçu un nombre vraiment très impressionnant de décorations tout au long de sa très belle carrière militaire. La Légion d'honneur.
Oui.
Il est fait chevalier en 1891, officier en 1899, commandeur en 1911, grand officier en 1914 et grand croix, il les a toutes, hein, en 1915.
Voilà,
la seule qu'il n'a pas, c'était le grand collier en fait, que seul le président de la République porte.
Oui.
Mais sinon, il les a toutes. Il est également décoré de la médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, de la croix de guerre 14-18, de la médaille interalliée, de la médaille commémorative de la Grande Guerre. Le Royaume-Uni lui donne la Grand Croix de l'Ordre du Bain, une des plus grandes distinctions britanniques.
D'accord.
La Grand Croix de l'Ordre Royal de Victoria.
Ouais.
La Pologne, la Croix de Chevalier de l'Ordre Militaire de Virtuti Militari, pardon.
Oui, bravo.
De l'Empire russe, la croix de l'ordre de Saint-Alexandre Nevski, la grande croix de l'ordre de l'Aigle Blanc, la grande croix de l'ordre de Saint-Stanislas, la grande croix de l'ordre de Sainte-Anne, la Belgique.
Bon, je vais boire un café. Hein.
La croix de guerre, c'est presque fini. Les États-Unis d'Amérique, la Service Medal. Le Vatican, la Grand Croix de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand et la Grand Croix de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare. C'est fini.
Mais
franchement, c'était à mériter. Il faut rendre à César ce qui est à César.
Tout à fait.
Alors, les hommages, je termine souvent par les hommages. Oui. Alors, j'ai relevé plus d'une quinzaine de villes, je ne vais pas les citer, qui ont une rue ou une avenue de Castelnau ou général de Castelnau. C'est énorme quand même. À Montréal, on trouve la station météorologique de Castelnau, qui se trouve rue de Castelnau.
Ah bah d'accord.
Deux casernes portent son nom, une à Chaumont en Haute-Marne et l'autre à Trèves en Allemagne.
Ouais.
Ainsi que la 198e promotion de l'école spéciale et militaire de Saint-Cyr,
ouais.
De 2011 à 2014, donc qui est baptisée promotion du général de Castelnau. Et le bâtiment qui abrite l'état-major de la 13e DBLE au camp du Larzac,
oui,
s'appelle le quartier de Castelnau.
Ah, ouais,
voilà, donc beaucoup d'hommages.
Ouais. Tiens, question, parce que Castelnau, oui, là, tous ces Castelnau, donc rien à voir avec le Castelnau, l'autre Castelnau qu'on connaît en Aveyron, Castelnau de Mandail, c'est pas la même famille.
Les Castelnau, ouais, c'est une branche qui vient du Lot, c'est une branche qui c'est les Castelnau bretonnous,
ouais,
qui sont une branche qui est venue en Aveyron.
D'accord.
Et en fait, j'espère ne pas me tromper, mais dès qu'il y a un nom Castelnau,
ouais,
effectivement, ça fait un rappel à cette famille.
À la famille, bah oui.
Et
oui.
Curière de Castelnau. Mmh. Curière, c'est un tout petit village, mmh, où cette branche aussi s'est élevée. Je crois que quelqu'un de la branche est parti, de Curière est parti même faire les croisades en Terre Sainte.
D'accord.
Voilà, vraiment une grande, grande famille noble. Mais dès qu'il y a un nom Castelnau, c'est sûr, c'est une origine de cette famille. Et donc, elle prend racine au très très grand et très beau château de Castelnau, Bretonnou, dans le Lot.
Okay.
On peut voir à Sainte-Afrique sa maison natale avec une plaque commémorative qui est assez rigolote d'ailleurs parce que tout est gravé, mmh, sauf le mot général. Parce que
là, ils attendaient maréchal.
Ils attendaient de graver, tu vois, maréchal à la place. Ouais. Ça s'est jamais fait. Ouais. Donc tout est gravé sauf le mot général qui est peint.
Ouais, c'est amusant.
Oui. On peut voir à Sainte-Afrique également sa statue équestre en bronze qui se trouve dans un parc près de l'office de tourisme.
Uh-huh.
Et si vous vous rendez à Saint-Commodolte,
oui,
vous pourrez voir un monument qui est dédié à la famille de Castelnau, dédié en l'honneur du général de Castelnau et de ses deux frères, ainsi que de leurs 6 enfants, 6 fils et, ouais, petits-fils qui sont morts pour la France, oui, dans la Première et dans la Seconde Guerre mondiale. Ce monument se trouve juste devant l'ancien château de Saint-Côme qui appartenait à la famille de Castelnau.
D'accord.
Et qui a été donné à la commune pour servir de mairie maintenant. C'est classe, c'est un château-mairie. Donc c'est là, en plein cœur du village de Saint-Côme, tout près de l'église, la fameuse église avec le clocher d'or. Vous avez donc ce très beau monument avec des médaillons qui représentent le profil des trois frères et le nom des trois frères et le nom des fils et petits-fils, moi pour la France, gravé en dessous.
Et
pour le général de Castelnau.
Eh ben, merci beaucoup, Vincent, pour cette nouvelle chronique, ces nouvelles connaissances partagées avec nous, le général de Castelnau, cette semaine. Dans 15 jours, on se retrouve pour le numéro 45. Tu sais déjà de quoi tu vas nous parler, où tu vas nous emmener ou pas encore?
Je vais vous amener au Panthéon.
Panthéon à Paris?
Bah, t'en connais d'autres?
Non, mais il y en avait René.
Enfin, il y a le Panthéon aussi, il y a le Panthéon à Rome.
Ouais, il y a Rome, oui.
Il n'y a pas un Aveyronnais.
Non.
Mais il y a un gros lien avec l'Aveyron.
Ouh.
Ouh.
Bon, bah, alors, vivement dans 15 jours.
Vivement dans 15 jours, oui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.